Frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu pour une phrase. Et dans cette phrase, vous allez avec moi trouver quatre richesses. Quatre richesses avec lesquelles nous allons pouvoir partir du culte tout à l'heure et affronter la semaine. C'est dans le psaume 40 que je vous propose la lecture d'une phrase. Si vous voulez, on peut rajouter une demi-phrase, une phrase et demie. Oui, c'est bien, frère. Merci, merci. Psaume 40, dans l'Ancien Testament. Et lorsque vous l'avez, vous arrêtez vos yeux un instant sur le verset 18. Psaume 40, verset 18. David, inspiré par Dieu, dit ceci. « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Amen. » Pardon ? Et il y en a parmi nous des frères et sœurs qui pensent que Dieu pense à chacun d'entre nous. Mais, le Seigneur pense à moi. Frères et sœurs, c'est pas toujours facile de s'arrêter sur l'expression « être pauvre ». C'est pas facile à dire « je suis pauvre ». C'est pas facile à dire « j'ai besoin ». C'est pas toujours facile de dire « aidez-moi ». C'est pas toujours facile. Pourtant, le Seigneur nous a dit dans sa parole « heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, et ça nous le croyons ». Frères et sœurs, il y a deux sortes de pauvreté. La pauvreté qui nous tombe dessus parce que nous avons commis des erreurs. Nous sommes trompés. Nous avons été dans l'imprévoyance. Nous n'avons pas pensé que nous avons désobéi au Seigneur et ça nous amène une certaine pauvreté. Et je voudrais m'adresser à ceux, frères et sœurs, qui peuvent ce matin cultiver, parce que les quatre richesses, il faut cultiver d'abord le mot « pauvre ». Car il y a pauvre et pauvre. Que veut dire le Seigneur quand il dit « heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux ». Car là, mes frères et sœurs, c'est un miracle que le monde ne comprend pas. Avec Dieu, être pauvre, c'est être riche. Et par la grâce de Dieu, nous sommes pauvres, mais riches de la richesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de plus riche que Dieu. Et comme le disait la Bible, elle le dit la Bible, « j'étais pauvre, mais il m'a enrichi ». Et s'il y a des riches au milieu de nous, ça ne se dit pas en France, hein. N'ayez pas peur, je ne travaille pas aux finances ni à Bercy. Est-ce qu'il y a des riches au milieu de nous ? Alors, s'il y a des riches tout en étant pauvres, nous allons découvrir, frères et sœurs, quelques quatre richesses. Tout d'abord, petite remarque, nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous pauvres parce que nous sommes nés d'un père pauvre. Nous sommes nés d'Adam. Et Adam avait hérité d'un grand domaine, il était propriétaire d'un immense champ, il n'avait qu'à cueillir les fruits, surveiller un petit peu, il était dans le jardin d'Éden, grand domaine que Dieu lui avait donné, riche. Seulement, il a violé le bail. L'alliance que Dieu lui avait dit, il l'a violée. Il a, désobéi à Dieu, il a tout perdu. Et quand un père et une mère ont tout perdu, les enfants n'ont rien à hériter. C'est pour ça qu'on est pauvres, mes frères et sœurs. Par naissance, nous sommes pauvres, nés d'un père pauvre, d'une mère pauvre, et nous sommes des pauvres gens. Ça, cette pauvreté va nous amener à découvrir quelque chose. Dieu a créé Adam riche. Et Adam, par sa désobéissance, vous le savez, a été dépouillé de tout ce que Dieu lui a donné. Il a été même jeté, chassé du jardin d'Éden, c'est écrit. Chassé. Il n'avait plus rien. Si, il avait un métier. Ah oui, il a trouvé un métier. Connaissez le métier d'Adam ? Il était couturier. Et sa femme était couturière. Eh oui, Yves Saint-Laurent n'avait pas pensé à ça. La seule chose qu'il a gardée, c'est un métier, de prendre des feuilles pour se faire un vêtement. Mais devant Dieu, ça, ça ne tient pas. Enfin bref, il a été dépouillé, chassé, mis de côté, éloigné parce qu'il a désobéi au Seigneur. Et sa vie, c'était le travail, la sueur, les échecs, les luttes. Et quand il a eu un fils, son premier fils, Adam était tellement pauvre que son premier fils, Cain, est devenu un criminel. Frères et sœurs, un forçat. Son premier fils a vécu toute sa vie en liberté surveillée et conditionnelle. Il a erré de droite et de gauche, c'est pas vrai? Donc voyez-vous, nos origines humaines à tous, frères et sœurs, c'est pas une insulte, tous les hommes, nous sommes nés pauvres d'un père pauvre qui nous a emmenés à payer des dettes, car vous savez bien qu'il y a des gens qui refusent certains héritages, parce que si on prend l'héritage de certaines personnes, il faut aussi payer les dettes. Or, nous sommes nés pauvres d'un père pauvre et plein de dettes, et l'Écriture nous dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Si vous lisez chez vous le psaume 40, vous trouverez ces mots. Moi, je suis pauvre. Je suis pauvre et dans le besoin. Non seulement je suis pauvre, mais j'ai des besoins en plus. Des besoins qui vont augmenter ma pauvreté. Il dira, David, il dit, j'ai tellement de problèmes que j'en ai plus que les cheveux de ma tête. Voyez-vous, moi j'en ai eu tellement qu'ils ont disparu. Les cheveux. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, j'étais pauvre, mais tu m'as fait grâce. Je suis pauvre. Il aurait pu s'arrêter là, David. Et il ajoute, non seulement je suis pauvre, mais je suis indigent. J'ai besoin de tout. Et c'est vrai. Car l'Écriture nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si l'Éternel ne construit pas la maison, ceux qui la construisent en vain. Et Jésus, en tant que Fils de l'homme, a bien dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc non seulement nous sommes pauvres, mais nous sommes des nécessiteux qui ont besoin de secours et d'aide et qui nous amènent des fois à dire, ah, vous savez, je me suis mis en colère, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Vous n'avez jamais dit ça, frères et sœurs ? Plus fort que moi. Je suis sans force. Et l'Écriture nous dit, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Donc nous sommes pauvres, hein. En plus de ça, nous sommes nécessiteux, deux, et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Vous me direz, mais monsieur Haroux, vous trompez. On n'est pas en évangélisation, on est au culte. Eh bien oui, c'est à des chrétiens que je m'adresse. Car voyez-vous, frères et sœurs, quand on est enfant de Dieu, on oublie certaines choses. On est enfant de Dieu et nous le sommes. C'est vrai, par la grâce de Dieu. Mais tout en étant enfant de Dieu, on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Et non seulement ça, mais voyez-vous, le matin, dès qu'on se réveille, on a besoin de la grâce de Dieu. Le soir, quand on s'endort après tous les événements de la journée, on a besoin de la grâce de Dieu, tout en étant chrétien. L'Écriture nous montre que dans tous les domaines, on a besoin. Quand on est adulte et qu'on a du travail et qu'on en cherche, on a besoin. Quand, par la grâce de Dieu, on est un peu plus jeune, on a besoin de la grâce de Dieu. Quand on a un âge certain, ou un certain âge, on a besoin de la grâce de Dieu. Et dans tous les domaines, chrétiens ou pas, enfants de Dieu, frères et sœurs, vous, moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et l'Écriture l'a dit, c'est sorti de la bouche de Dieu. Ma grâce te suffit. Je suis pauvre, indigent, mais ma grâce va te suffire. Et vous allez voir, elle va nous suffire en nous apportant quatre magnifiques richesses. Parce qu'en tant que chrétiens, nous sommes devenus des adorateurs. Mais pour adorer le Père, nous avons besoin d'être aidés par le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit. Quand nous prions, Nous avons besoin d'être aidés. Alors il y a le Saint-Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Quand nous avons des trous de mémoire de la parole, qui c'est qui nous rappelle la parole ? Le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, nous pouvons bénir son nom parce que non seulement il nous aide à prier, non seulement il nous aide à adorer le Saint-Esprit, il nous aide à nous rappeler et il nous aide à parler. Il est écrit, quand tu rendras témoignage, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit te dira alors même ce que tu as besoin. Donc voyez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes toujours des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Et c'est à ces gens-là que Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Eh bien, ce matin, il m'a chargé de vous dire que le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, est à vous, à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes des fils et des filles, des gens de la maison de Dieu. Alors maintenant, ça y est, quelles sont les quatre richesses que je trouve dans cette phrase ? Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et indigent, ça, on l'a vu. Maintenant, regardez, voilà la deuxième parole. Mais le Seigneur pense à moi. Et c'est dans cette phrase-là qu'il y a quatre richesses. Mais le Seigneur pense à moi. Frères et sœurs, vous arrive une mauvaise nouvelle, une difficulté ou autre, un souci particulier avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, avec votre travail, ou vous vous sentez démuni aussitôt, rappelez-vous que le Saint-Esprit vous rappellera, tu es pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à toi. Il pense à toi. Je voudrais que vous quittiez la salle ce matin après le culte avec cette pensée dans le cœur, mais Dieu pense à moi. Je voudrais penser à Dieu autant que Dieu pense à moi. Le jour, la nuit, il est présent. Et je sais que dans sa grâce, il va me nourrir. Donc, la première chose, voyez-vous, quand on peut dire, oui, je suis pauvre, indigent, ça ne va pas sur la terre, mais ma richesse, c'est de penser que Dieu pense à moi. Ça nous apporte une première richesse que j'appellerais une richesse qui va renforcer notre foi. Ce qui va renforcer notre foi, c'est de savoir que le Seigneur pense à nous. Ce matin particulièrement, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les jours de la semaine, le Seigneur pense à vous, la nuit comme le jour. Vous me direz, mais enfin, je suis insignifiant, qu'est-ce que vous voulez ? Dieu pense à moi, vous vous rendez compte ? Le monde, les astres, les étoiles. Moi, le Seigneur pense, vous savez, je suis insignifiant, je suis un petit chrétien, je suis sur le côté. Et mes frères et sœurs, le Seigneur a pensé à des gens insignifiants. Regardez Joseph, dans la prison, oublié des uns ou oublié des autres. Il était insignifiant pour ses frères. Il était insignifiant même pour ceux à qui il avait rendu service. Il était insignifiant pour ceux qui l'avaient oublié, mais il était présent dans le cœur de Dieu. Amen. Oui, vous me direz, oui, bon, d'accord. Mais enfin, vous me direz, c'est Joseph. Je vais prendre une femme. Ah, mesdames, vous redressez la tête. Une femme qui s'appelle Madame Ruth. Insignifiante, Madame Ruth. Une Moabite. Grâce maudite. Moabite. En plus, une immigrée. Elle arrive dans un pays qui n'est pas le sien. En plus, pour manger, elle glane dans les champs. Et elle devient, mes frères et sœurs, l'une des aïeules de Jésus-Christ. Insignifiant. Il pense à moi. Allons dans le Nouveau Testament. Jésus est fatigué, il arrive dans un pays de Samarie, à Sichar, et là il s'assoit, il a rendez-vous avec quelqu'un qui ne sait pas. Il y a une femme qui vient, une dévergondée, une femme peu honorable, une femme dont les femmes se détournent. Peut-être ça attire les hommes, mais les femmes s'en détournent. Elle n'est pas honorable, elle est dévergondée. Elle fait des fois un mariage, deux mariages, quoi. Enfin bref, et puis même aujourd'hui, elle vit avec un type qui n'est pas son mari, enfin rien du tout, insignifiant. Eh bien, qui va consacrer tout un chapitre à parler avec elle ? C'est Jésus. Insignifiant. Mais non, Jésus pensait à cette femme. Insignifiant, ces pauvres apôtres qui sont là, avec eux, ils ne sont pas encore apôtres, ils sont pêcheurs. Pêcheur en train de réparer leur filet. Leur filet s'est esquinté, ils ont pêché aucun poisson, ils sont obligés d'y réparer. Donc c'est des pêcheurs pauvres, vaincus, isolés, mis de côté, ignorants, mais Jésus les voit, parce qu'il pense à eux. Et il dira à l'un d'eux, « Simon, tu es Simon, fils de Jonas, désormais, tu seras appelé Pierre. » Oui, il pense aux gens insignifiants. Il pense aux gens insignifiants, mes frères et sœurs, et le plus insignifiant des insignifiants, c'est celui qui est mort avec lui à la croix du calvaire, un brigand, dont le casier judiciaire est lourd, peine de mort. Eh bien, il pense, Jésus, tellement que le brigand va dire, « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et le Seigneur s'en est souvenu, puisqu'immédiatement il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et je termine, un autre personnage un peu insignifiant, méprisant, pas sympathique du tout. Quand il respire, on sent la haine. Quand il respire, on sent les menaces. Il met en prison les hommes, les femmes. Et quand un jeune homme du nom d'Étienne, un jeune garçon rempli du Saint-Esprit, est mis à mort, assassiné, il trouve ça bien. Mais le Seigneur pense à lui. Et sur le chemin de Damas, il va l'arrêter. Et il va le nommer Saul, Saul. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Oui, il y avait beaucoup de persécutions sur l'Église, mais le Seigneur met l'accent sur cet homme-là. Insignifiant, dangereux, méchant, et pourtant, Jésus pense à lui. Je suis pauvre, indigent, mais le Seigneur pense à moi. Vous direz, oui, mais enfin, vous prenez des cas exceptionnels. Moi, je suis non seulement insignifiant, mais je suis obscur. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, croyez-vous que la fille de cette femme syro-phénicienne qui était tourmentée par un démon, vous connaissez le passage ? Je vais vous demander, connaissez-vous son nom ? Moi non plus. Connaissez-vous le genre de fille c'est ? Non. Connaissez-vous si elle est blonde, oxygénée ou noire corbeau ? Non. Dans le fond, vous ne savez pas beaucoup, elle est inconnue. Mais le Seigneur a pensé à elle car il a délivré des démons. Et ce Seigneur-là, il est là maintenant, ce matin. On va communier à son corps et à son sang. Prenez la petite fille de Monsieur Jairus. Elle a 12 ans. Elle non plus, on ne connaît pas son nom. Et qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle était en train de mourir. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle était à l'agonie. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? J'en sais rien. Quel travail allait-elle faire ? J'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est que le Seigneur Jésus s'est penché sur elle parce que le Seigneur pense à elle. Dernier exemple pour terminer. Mes frères et sœurs, la veuve de Naïn. Petite veuve insignifiante. Elle a perdu son mari. Elle est veuve maintenant. Ce jeune homme qui est mort. Posons-nous la question suivante. Quelle place a-t-il ? Quelle prière a-t-il adressée ? Comme à votre fils ou votre fille qui vous font désespérer, dit « Seigneur, ils ne vont jamais se convertir. Dieu n'a pas de place dans sa vie. Il ne prie jamais. » Le fils de Naïn, il n'a pas prié. Dans ce cas-là. Mais le Seigneur pense à lui. Alors ne désespérez pas pour les membres de vos bien-aimés qui sont actuellement spirituellement morts, sans prière, éloignés, l'Écriture nous dit, le Seigneur pense à eux. Amen. Oui, je veux que le diable entende. Je sais en qui j'ai cru, et je sais que mon Dieu est vivant et qu'il pense à moi. Et s'il pense à moi, eh bien sûr, il ne peut pas m'oublier. Mes frères et sœurs, nous sommes peut-être inconnus des hommes, nous sommes peut-être inconnus des services sociaux, sommes peut-être inconnus des capitaux et de l'argent. Mais ce qui est magnifique, c'est que vous et moi, nous soyons connus de Dieu. Et c'est là notre richesse, connus de Dieu, tout en étant pauvres, tout en étant en train de mendier, parce qu'on avait besoin. L'Écriture nous dit, voilà, je pense à toi. Ça vous remplit de foi. Ça renouvelle votre foi. La deuxième richesse que je trouve dans ce texte, le Seigneur pense à moi, c'est comme si le Seigneur voulait nous remplir d'espérance. Et vous êtes dans la difficulté, par exemple, vous avez pas mal de soucis, Mais vous savez que votre employeur ou votre mari, votre femme ou quelqu'un de la famille qui a des moyens un peu plus pense à vous. Ça vous donne quand même ce qu'on appellerait une espérance. Hein? Puisqu'il pense, on se dit, il va quand même peut-être faire quelque chose pour nous. Ça, on le dit pour les hommes. Mais Dieu, mes frères et sœurs, s'il pense à nous, c'est pas pour nous dire, ah, tu sais, mon enfant, je pense à toi, je t'aime beaucoup, reste à souffrir. Non, mais qu'est-ce que vous imaginez? C'est pas ce Dieu-là en qui nous croyons. C'est celui qui va renouveler notre espérance. Et moi, quand je lis cela, j'ai l'impression qu'il y a des cloches de joie qui résonnent dans mon cœur. Vous connaissez ça? Les cloches de joie sonnent dans mon cœur. Les cloches de joie sonnent dans mon cœur. Je loue son beau nom tous les longs du jour. Les cloches de joie sonnent dans mon... Oh, ces cloches. Ce n'est pas de la faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, ce n'est pas de ma faute à moi. Si j'ai tant, c'est gloire au Seigneur. Les cloches de joie sonnent dans mon cœur. Les cloches de joie sonnent dans mon cœur. Je loue ton beau nom tout le long du jour. Les cloches de joie sonnent dans mon cœur. Et terminé, ce n'est pas de ma faute. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. C'est bon? Oui. Le Seigneur pense à moi. Première richesse, ça remplit ma foi. Ça renforce ma foi. Deuxième richesse, ça me donne de l'espérance. Mais mes frères et sœurs, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Regardez, quand Dieu a mis l'homme, a créé l'homme, à quel moment l'a-t-il créé? Lorsqu'il avait tout terminé, Dieu a fait un grand travail, et quand il a tout terminé, il dit que cela était bon. Ensuite, il a dit, créons l'homme à notre image. Et ce fut un très bon jour, un bon jour aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il a pourvu à tous les besoins, et une fois qu'il a tous les mis les besoins, il a créé l'homme. Ça veut dire que le Seigneur veut répondre à tous nos besoins afin que nous puissions jouir du repos. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, mes frères et sœurs, il nous donne de l'espérance au milieu du désespoir. Un exemple. Il y a un apôtre qui s'appelle Pierre, on va prendre lui, qui au cours d'une réunion, il prend la parole. Jésus leur donne une prophétie. Vous allez tous me laisser. Vous allez tous m'abandonner. Pierre se dresse et dit non, moi, jamais je ne t'abandonnerai. Jésus lui dit, Simon, avant que cela t'arrive, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Avant la tuile qui va te tomber dessus, j'ai prié pour toi. Et le Seigneur a permis cela. Il a permis, ma sœur, mon frère, peut-être ton épreuve, mais quand l'épreuve te vient vers toi, il a déjà prié pour toi. Et quand Jésus prie, il est toujours exaucé. Et voilà ce qui va donner l'espérance à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras, voyez-vous, il emploie le futur. Quand tu seras ramené, converti, quand tu as repris tes esprits, tu vas pouvoir faire du bien à tes frères. Il y a là, mes frères et sœurs, la foi et l'espérance. Car le Jésus de Pierre, c'est le même Jésus qui est avec chacun d'entre nous. Et cela m'amène à penser qu'il ne pense pas à nous qu'un jour, mais il pense à nous 24 heures sur 24. Troisième richesse, après la foi renforcée, après l'espérance qui nous remplit, je crois que cette phrase est belle, mais le Seigneur pense à moi. Vous savez à quoi ça me fait penser? À son amour. Il pense à moi. Et ses pensées vis-à-vis de moi sont des pensées pleines d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Frères et sœurs, la grande question de Jésus, c'est savoir si nous l'aimons comme il nous a aimés. Simon, fils de Jonas, Pierre, m'aimes-tu? Non pas Pierre, qu'est-ce que tu as fait, pauvre type? Pierre, m'aimes-tu? Le Seigneur pense à moi. Si c'est un ennemi qui pense à moi, ça me fait peur. Mais si je sais que celui qui pense à moi m'aime, alors je me dis, tu peux attendre, la victoire sera là. Oui, le Seigneur pense à nous. Je vais vous donner une preuve. Vous direz, oui, mais ça, c'est dans le ministère de Jésus avant sa mort. Après sa mort. Après, pendant sa résurrection, il s'adresse à Pierre et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Donc voyez-vous, après sa résurrection, Jésus continue à s'occuper et à penser à nous. Plus une autre preuve. Dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, je crois que c'est le chapitre 21, c'est un matin, sur la plage. Il y a des hommes, de ses disciples, qui ont travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Ils ont frappé à tous les bureaux, rien. Et quelle est la première question qui sort de la bouche du Jésus ressuscité? Enfant, non pas rebelle, incroyant, fichez-moi le camp. Enfant, vous n'avez rien à manger. Voyez-vous l'intérêt qu'il a à l'heure qui vient d'être ressuscité? Son intérêt pour nous n'a jamais cessé. Avez-vous rien à manger? Ben non. Alors vous allez jeter votre filet du côté droit, vous allez voir ce que vous allez voir, et ils l'ont fait, et vous savez ce qui s'est passé? Une pêche miraculeuse et qui a glorifié le Seigneur. Oui, ce qu'il demande dans ce texte, c'est que nous comprenons en disant « Le Seigneur pense à moi », son amour, c'est un amour qui pense, et qui pense à toi, ma sœur, à toi, mon frère, qui cette semaine peut-être avait pleuré, et découragé, baissé les bras, il m'a chargé de te dire qu'il pense à toi parce qu'il t'aime. Mon sauveur m'aime. Oh, quel ferme appui pour ma foi. L'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre vivre en homme de douleur. Dieu vit ma misère, il m'ouvre son cœur. Et ce matin, je veux te dire, Seigneur, Jésus. Quelle question? Allez-y encore. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je t'aime. Et ce matin, Jésus, je voudrais te dire, ô mon bon sauveur, que je t'aime tant, du fond de mon cœur. Encore. Je voudrais toute la vérité. Quelle est-elle? Je t'aime, ô Jésus, du fond de mon cœur. Quatrième et dernière richesse qui a encore attiré dans ce texte, ça enrichit ma foi, ça me remplit d'espérance, ça me renouvelle dans l'amour. Et c'est ce que le Seigneur demande à cette Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Eh bien, si je crois que le Seigneur pense à moi, ça va renouveler mon amour pour lui. Et terminons. Je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Frères et sœurs, pendant 30 ans, sur la terre des hommes, 33 ans sur la terre des hommes, il a marché sur les routes de Galilée. Il a marché, il a parlé, par la grâce de Dieu. Sa robe était sans tache, sans couture. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Son corps est devenu une terre labourée par les fouets, par les clous, par la lance, par le vinaigre. Et il a fait ça pour qui? Dites-le. Il a fait ça pour nous. Parce que dans quelques instants, nous allons nous souvenir. Et l'apôtre dit, souvenez-vous. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quoi? La chair et le sang, le pain et le vin. C'est indispensable, parce que quand vous allez prendre la communion, mes frères et sœurs, ne la prenez pas en pensant à rien d'autre qu'à la mort et à la résurrection de Jésus. Et il est écrit qu'il y a là une source de guérison. quand on sait discerner le corps du Seigneur. Oui, vous me direz, mais enfin frère, tout ce que vous avez dit, c'est peut-être bien. Ça, c'était vrai pour quand Jésus était sur la terre, mais maintenant. Maintenant qu'il est là-haut. Mes frères et sœurs, je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des amis, de bons amis, qui vous ont dit un jour, tu sais, si tu as un problème, un coup de fil. Si tu as besoin d'un coup de main, un coup de fil. Si tu es gêné, il n'y a pas de problème, je suis là. Est-ce que ça vous est arrivé d'entendre ça? Bon. Et une fois que c'est terminé, et que ces gens-là sont un peu éloignés ou élevés, ils sont comme les prisonniers avec Joseph, ils nous oublient. Et pourtant, ils disent, oh, je sais que mon ami un tel, ma belle-sœur un tel, oh oui, elle m'a dit qu'elle allait penser à moi, alors vous lui téléphonez, allô, c'est toi Gertrude? Oui, bonjour Gertrude, tu me reconnais?
Oui, oui, je te reconnais, oui.
Tu te souviens d'une dernière conversation? Oui, quand tu m'as promis de venir m'aider quand j'ai des besoins. Eh bien, j'ai un besoin, je viens d'être à la porte et j'ai pas d'allocation. Pourrais-tu me donner quelque chose un petit peu ou me prêter quelque chose? Oh, mais tu tombes mal. Oh, vraiment, tu tombes mal, je peux pas. Vous avez déjà entendu ça? Jésus aujourd'hui, mon ami, mon sauveur, il est monté au ciel, mais il ne t'a pas oublié. Et je vais vous en donner la preuve. Car qu'est-ce qu'il fait au ciel aujourd'hui? Mes frères et sœurs, la première chose, il est sur son trône et il règne. Et maintenant qu'il est sur son règne, qu'est-ce qu'il fait? Il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut intercéder pour nous et pour nous secourir dans nos besoins. Et puis il y a une chose qu'il fait, qu'il ne faut jamais oublier, il est en train de nous construire une demeure dans la maison du Père. C'est-à-dire que depuis qu'il est au ciel, il ne pense qu'à nous, à chacun d'entre nous, afin que par la grâce de Dieu, nous soyons vainqueurs. Frères et sœurs, voilà ce qu'il fait aujourd'hui. Répétons, moi je suis pauvre et indigent, et mettons, mais Jésus pense à moi. Vous allez quitter la réunion tout à l'heure, et vous allez affronter peut-être encore des expressions de vie difficiles, mais rentrez chez vous en disant, le Seigneur pense à moi. Frères et sœurs, je voudrais que cette parole soit comme un petit murmure dans votre oreille. Vous savez, quand Élie a été découragé, parce que ça arrive à tout le monde d'être découragé, hein, il s'était enfermé dans une grotte, et puis il a entendu un doux murmure. Et je voudrais que vous quittiez le culte ce matin en partant avec dans vos oreilles et dans votre cœur ce murmure de la grâce. Je pense à toi. Je pense à toi. Non pas je penserai, non pas j'ai pensé, mais maintenant je pense à toi. Mes sœurs et mes frères, c'est là toute la grâce dont nous avons besoin ce matin, afin que nous puissions repartir dans le chemin de la vie avec une pleine victoire. Le Seigneur, et quand je sais ça, je trouve quatre richesses. Alors, petit contrôle. Quelle est la première richesse? Ma foi. La deuxième. L'espérance. La troisième. L'amour. La quatrième me rappelle qu'aujourd'hui, il est toujours le même. Alléluia. Voulez-vous que nous courbions nos fronts?